venir nous chercher. Et les gens peuvent dire, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter puis de chercher à connaître qu'est-ce qui va arriver après la mort? On le saura bien rendu de l'autre côté. On ne peut pas savoir. Si on pense trop à ce qu'il y a l'autre côté, ça nous fait penser à la mort, puis ça nous empêche de profiter de la vie. Profitons de la vie au maximum. Et je crois que le Dieu de ce siècle veut nous aveugler, nous engourdir, nous distraire, pour pas qu'on regarde plus loin que la vie ici-bas, plus loin que la vie sur Terre, pour pas qu'on se pose de questions. Et la plupart des gens vont dire, bon, la vie est courte, profitons-en au maximum. On a entendu ça plusieurs fois. Et ça rejoint un peu la pensée de l'apôtre Paul qui disait dans 1 Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, dans le sens profitons de la vie, car demain, nous mourrons. Donc, mais Paul disait ça à des gens qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, c'est ça qu'il nous reste à faire. Mais Jésus est ressuscité, donc, changeons notre façon de penser. Alors, on a vu la dernière fois que ceux qui ont fait le plus pour le Seigneur sur la terre étaient ceux qui avaient une bonne compréhension du trésor qui nous attendait au ciel. Donc, le fait qu'on ait les yeux fixés en haut, vers le trésor que Jésus nous réserve, vers lui, vers sa personne, ça fait que ça change notre vie sur terre. Et plus on va être près du Seigneur sur terre, et plus on va l'attendre, plus on va faire des choses pour lui et avec lui. Plus nos décisions vont être influencées par le fait qu'on sait qu'on va le voir dans toute sa splendeur un jour et toutes les récompenses qui nous sont réservées. Et ce corps que nous avons, nous allons le quitter un jour. Et on en prend soin, on le nettoie, on le nourrit bien, on fait plein de choses. Mais un jour, on va le quitter. Et je me souviens, lorsque j'avais 18-19 ans, j'avais les cheveux longs, mettons jusqu'ici. Puis là, j'avais trouvé un travail dans le public. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est « Fais couper tes cheveux. » Il fallait les faire couper, comme ça. Et quand j'étais sur le coiffeur, dans ce salon, on appelle ça le barbier, puis je voyais tous mes cheveux par terre. Je me disais, ah, parce que c'était un peu ma gloire, ma chevelure. J'étais pas absolument long, là, mais tu sais, dans ce temps-là, on était hot. On était hot si on avait les cheveux longs, puis on faisait partie de la gang, puis on n'était pas un straight, puis donc j'avais un peu de ma gloire qui était là-dedans. J'avais hâte que ça pousse, puis j'étais quelqu'un. Puis là, je voyais ça par terre, les cheveux longs par terre. J'ai dit, ça se peut-tu? C'était plus moi, il était là, j'étais comme distant de ça, c'est plus moi. Ça se peut-tu que je prenais tant de soin de ça, à les peigner, à les brosser, à les laver, puis de laisser pousser, attendre qu'ils poussent, puis c'était là. Fini. Puis là, ça m'a fait penser, même si j'étais pas chrétien, un jour, ça va être la même chose avec mon corps. Je vais m'en aller, puis le corps, il va rester là. Puis il va dire, hey, j'en ai mis du temps à soigner ça, puis c'est sûr qu'il faut s'en occuper, là. Mais à me préoccuper de tout ça, bien, il faut le faire. C'est pour dire qu'un jour, notre esprit va quitter notre corps. Le Seigneur va nous donner, heureusement, un nouveau corps transformé. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir où je m'en vais si je meurs. On va voir avec quel corps. Est-ce que j'ai un corps que je vais retrouver Jésus ou je vais l'avoir plus tard, mon corps transformé? Et si on a du temps, on va regarder les nouvelles relations qu'on va avoir au ciel. Dieu a un plan pour notre vie. Vous avez entendu ça souvent. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan n'a pas commencé à notre conception ou à notre naissance. Ce plan a commencé dans la pensée de Dieu, parce que nous lisons dès la création du monde, même avant. Dans Éphésiens chapitre 1, nous lisons que Dieu nous a prédestinés, nous a élus avant la fondation du monde. Hey! Donc, nous étions dans la pensée de Dieu même avant la fondation du monde. Et nous restons... Dieu a un plan pour nous qui a été conçu à ce moment-là. Et le plan de Dieu n'est pas seulement sur la terre, et pour l'éternité. Donc, le petit passage qu'on a sur la terre, là, 50 à 80 ans ou 100 ans pour les plus toughs, c'est court par rapport à tout le plan de Dieu pour nous. Et le plan de Dieu, c'est pas nécessairement ce qu'on vit sur la terre. Oui, c'est une partie, mais c'est vraiment Dieu a une vision d'ensemble. Et nous, on a une vision souvent sur la terre. Mais Dieu voit beaucoup plus grand pour nous, heureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où je vais mourir? Quand est-ce que je m'en vais? À quoi ça va ressembler cet endroit-là? Est-ce que je serai conscient après ma mort? Parce que Jésus n'est pas revenu encore. Là. Tu sais, Jésus va venir chercher son Église, mais entre ce temps-là, je meurs, mon corps va dans la terre où est incinéré, mais qu'est-ce qui se passe avec mon esprit? Est-ce que je vais avoir une forme à ce moment-là? Qui est-ce que je vais voir quand je vais quitter mon corps? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a plein de questions. Et au moment où je vais mourir, supposément, si ça passe aujourd'hui, les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont parle la Bible dans l'Apocalypse n'ont pas été créés encore. C'est tout simplement à la fin de l'Apocalypse, fin du millénium, que le nouveau ciel et la nouvelle terre vont être créés et qu'ils vont descendre du ciel. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas de nouveau ciel et nouvelle terre. Donc, après ma mort, je ne m'en vais pas là. Quelle place que je m'en vais, vas-tu nous le dire? Okay? On appelle ça, certains auteurs ont appelé cet endroit-là le ciel intermédiaire ou le pré-ciel. La Bible l'emploie plutôt le mot paradis. On s'en irait dans le... On va s'en aller dans le paradis. Jésus l'a appelé le paradis lorsqu'il a parlé au larron sur la croix. Et Paul aussi, on l'a vu ça la dernière fois, dans 2 Corinthiens, qui a été ravi, enlevé même, il ne savait même pas si c'était dans son corps ou dans son esprit, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Et là, il a vu des choses ineffables. Et ce troisième ciel-là, il l'a appelé le paradis. OK? On peut aller au prochain Justin, on peut avancer là, cette acte. C'est ça. Donc, dans Luc, chapitre 23, ça, c'est quand Jésus était sur la croix, il y avait deux brigands à chaque côté de lui. Il y en a un qui insultait Jésus et l'autre qui s'est aperçu qu'il méritait qu'est-ce qu'il y avait d'être sur la croix. Mais il a reconnu que Jésus était le roi et que Jésus pouvait le sauver. Et il croyait à la résurrection parce qu'il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas revenir. OK? Donc, on lit. Et il dit, c'est-à-dire le bandit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « en vérité, juste une vérité, en vérité, je le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Où il va être aujourd'hui? Où? Dans le paradis. Quand? Aujourd'hui même. Et avec qui? Avec Jésus. Donc on répond à trois questions. Où? Quand et avec qui? Donc, au moment où on décède, on s'en va dans le paradis, avec Jésus, et c'est aujourd'hui même, au moment du décès. Tu seras avec moi dans le paradis. Et le mot paradis vient d'un mot perse qui veut dire jardin clos ou jardin intime. C'était un endroit où le roi invitait. Il faisait un privilège des fois à quelqu'un de l'inviter avec lui à aller marcher dans son jardin. Donc, ça veut dire c'est un jardin intime. C'est un grand honneur qui était réservé à quelqu'un d'être invité par le roi et d'aller avec lui dans le jardin du palais royal pour prendre une marche, pour avoir une communion intime avec le roi. Et parce que le larron a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc, il reconnaissait que Jésus allait revenir comme roi, comme pour régner. Okay. Donc, le paradis, c'est vraiment un endroit où on va avoir une communion encore plus intime avec le Seigneur. On va être dans sa présence. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle terre et les nouveaux cieux n'auront pas encore été créés. Et c'est dans le paradis qu'on va aller. Donc, le paradis, ça va être notre première expérience là, exceptionnelle du vrai ciel. Il y a certains éléments qu'on va retrouver, qui vont être dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les éléments qu'il y a dans le paradis, c'est sûr la présence de notre Seigneur. C'est qu'est-ce qui est plus important. La vie éternelle, c'est lui qui la présence de notre Seigneur. Nous sommes déjà fiancés à lui, nous allons aller le retrouver, notre époux. Donc la présence du Seigneur est là. La présence de nos bien-aimés en Christ, ceux qui sont décédés avant nous, on va les revoir. Ceux qui vont décéder après nous, on va les revoir aussi. Et ceux qui vont être enlevés par après, on va les revoir. Dans le paradis, il y a des anges, il y a la présence des anges. Jésus a dit que les anges sont dans le paradis. Dans le paradis, il va y avoir des réjouissances, un émerveillement, une prise de conscience comme on n'en aura jamais eu. On va connaître des nouvelles choses. Okay? Donc, ça va vraiment être merveilleux. Et c'est ça que Paul disait, c'est un endroit ineffable, je peux même pas le décrire, et si je pouvais, j'aurais même pas le droit de le faire. Tellement qu'est-ce qu'il a vu et entendu, c'est grand. Ça, c'est le paradis. OK? Et ça, ça s'applique, je dis, on va dans le paradis aux gens qui sont sauvés, un peu comme le larron, qui a reconnu que Jésus était venu pour le sauver. Il était mort sur la croix, même s'il était sans péché, et que lui pouvait nous racheter. Et si vous êtes ici et vous êtes chrétien, né de nouveau, le Seigneur est votre sauveur, ça s'applique à vous. Ça s'applique à vous. D'un autre côté, si Jésus n'est pas votre sauveur, et que vous décédez tout de suite, ça ne s'appliquera pas à vous. Mais Jésus invite tout le monde. Comme Jésus a fait l'invitation au larron sur la croix, viens avec moi dans le paradis, je t'invite. Okay? Et Jésus envoie une invitation à tout le monde. La porte est ouverte à tout le monde. Venez avec moi dans le paradis. Donc, si ces choses que je dis ne s'appliquent pas à vous tout de suite, ils peuvent s'appliquer dans une minute, deux minutes, la décision est dans votre main. Okay? Donc, c'est à vous de reconnaître, de comprendre. Mais c'est Jésus qui va vous donner la foi, une prière le Seigneur pour comprendre vraiment ce qu'il a fait pour vous. Votre état de pécheur, perdu, éloigné de Dieu, et le fait que Jésus soit venu sur la terre pour ça, parce que Jésus, il n'est pas venu pour rien. C'est pas pour rien qu'il est mort sur la croix. Sinon, il aurait dit, ben, mes commandements sont là, respectez les commandements, vous allez être sauvés. Non. Il a besoin d'une victime, d'une personne sans défaut. Dieu lui-même s'est incarné sur la croix pour porter nos péchés. Et si on accepte qu'il l'a fait, on lui demande de nous porter nos péchés, il l'a fait. Et il nous donne la nouvelle naissance. Et ça, ça nous permet de participer à tout, toutes les richesses qui sont attachées au fait que nous sommes un enfant de Dieu. Au contraire, parce qu'il n'y a pas de purgatoire dans la Bible, il y a l'enfer. Moi, je parle du ciel, mais Jésus a parlé beaucoup de l'enfer aussi. Et l'enfer est là. C'est une réalité, c'est une triste réalité. C'est pas plaisant. J'aime ça parler du ciel, mais un jour, peut-être, je parlerai de l'enfer. Mais c'est pas plaisant de parler de l'enfer. Mais c'est là, malheureusement, c'est là. Si on doit prêcher toute la vérité, il faut parler de l'enfer, parler du ciel aussi. Et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui le refusent, malheureusement, ils vont passer l'éternité en enfer. Mais l'invitation de Jésus tient toujours. Il n'est jamais trop tard tant que nous avons la vie physique pour l'accepter. Donc, j'ai dit que nous irons dans la présence du Seigneur. On va aller avec l'autre acétate, c'est Étienne. Lorsqu'ils ont lapidé Étienne, Étienne a dit, avant de mourir, il lapidait Étienne qui priait et il disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Donc, il savait qu'il allait mourir. Donc, « Seigneur, je te donne mon esprit, je m'en vais dans ta présence. Seigneur, reçois mon esprit. » Une autre acétate, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, Paul dit, « Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Donc, lorsque je quitte ce corps, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais demeurer auprès du Seigneur. Okay? Donc, quand je quitte mes parents, je vais demeurer en appartement. Là, je quitte mon corps, je vais demeurer. Nouvelle demeure que Jésus a préparée pour moi, donc auprès de lui. Donc, Paul savait qu'à sa mort, il jouirait d'une communion parfaite, complète, et intime avec son Seigneur. Une autre acétate dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 23. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, la mort pour lui, Paul, c'était comme un cadeau. C'était un plus. Ben, est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Et plus loin, il dit, bon, il faut que je reste avec vous parce que j'ai un ministère. Donc, lorsqu'il dit de m'en aller, lorsqu'il va mourir, qu'est-ce qu'il fait quand il s'en va? Être avec Christ. Donc, beaucoup de versets dans la Bible qui nous confirme que dès notre décès, lorsqu'on quitte notre corps, on s'en va immédiatement dans la présence du Seigneur. Comment ça va se présenter? Est-ce qu'il y a des anges qui vont venir nous chercher? Ils vont dire, on était là, on t'attendait, viens, on va te trouver. Ou Jésus va être tout de suite là. Je ne sais pas, mais ça ne tardera pas qu'on va être dans la présence de notre Sauveur. Maintenant, je parlais tout à l'heure d'un corps transformé. Si je décède, je m'en vais rejoindre Jésus, est-ce que j'ai un nouveau corps? Mon nouveau corps va m'être donné un peu plus tard, c'est-à-dire lorsque Jésus va revenir. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens que lorsque Jésus va revenir pour enlever son Église, les morts en Christ vont ressusciter. Donc, si vous êtes mort avant ou endormi, comme dit la parole de Dieu des fois, vous allez ressusciter avec un nouveau corps. Et ceux qui seront encore là, ils vont être enlevés, mais ils vont être transformés. Si on le voit dans 1 Corinthiens, leur corps va être transformé. Donc, ils vont avoir un nouveau corps. Donc, si je décède tout de suite, mon esprit s'en va avec le Seigneur, parfaitement conscient de tout ce qui va se passer. Mais c'est au retour du Seigneur, lorsqu'il vient rechercher son Église, sa fiancée, qu'à ce moment-là, le Seigneur va me transformer. Ceux qui vont, je vais avoir un nouveau corps, ceux qui sont morts. Et ceux qui sont déjà là vont être transformés. Ceux qui sont morts vont ressusciter, mais pas avec le même corps. On voit un peu plus loin, on ne ressuscite pas avec le même corps, on ressuscite avec un corps transformé, glorieux, un corps céleste. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et pour ça, nous allons tourner dans nos Bibles. Donc, ça ne serait plus le PowerPoint, parce que je fais un bon bout dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35 à 53. Et dans le contexte, c'était les gens qui disaient que Christ n'était pas ressuscité, puis ils disaient, si on ressuscite avec le même corps, on va être encore le même corps, mais Paul leur dit, non, on ressuscite, mais ce n'est pas le même corps, ça va être différent. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35, on y est rendu. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Donc, c'est en plein la question qu'on se pose. Avec quel corps reviennent-ils? Et comment est-ce qu'on ressuscite et avec quel corps? Bonne question, hein? Quel corps on va voir à la résurrection? Insensé. Je ne dis pas ça à vous autres, là. C'est parce que Paul leur disait, voyons, gagne de niaiseux, gagne de père. C'est pas dur à comprendre. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est une simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Donc, le corps qui va aller dans la terre ou qui va être incinéré, c'est pas le même corps qui va ressusciter. Comme la graine qu'on met dans la terre, une graine de chêne qui est tout petite, ça pousse, ça fait un arbre qui vient gros et très haut. Donc, il n'y a aucune comparaison entre la graine et la plante, heureusement. Donc, notre corps, c'est comme une graine qui va être semée. Et le corps transformé, ça va être comparable au plant. Une petite graine de tomate. Quand on sème un jardin, on fait ça par la foi. Hein? On met une petite graine dans la terre, un peu d'engrais, puis tout ça. Puis là, ça ne passe à rien. Une semaine. Maintenant, hop, il pousse quelque chose. Puis là, un plant de tomate ou des carottes, ou je ne sais pas. Donc, graine tout petite, mais qui produit un légume ou un fruit ou un arbre merveilleux. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, Dieu va nous donner chacun un corps qui va nous être propre, différent. On ne sera pas tout pareil, tout habillé pareil. C'est sûr qu'on va avoir une robe blanche, mais on va être vraiment différent. Donc, Dieu va donner un corps différent à chacun. On va se reconnaître. OK? Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Ici, ce n'est pas écrit des esprits célestes, mais des corps célestes. Ça veut dire qu'il va nous donner un corps. On va avoir un corps. Aujourd'hui, notre esprit est dans un corps physique, un corps terrestre. Un jour, notre esprit va être dans un corps céleste, qui va être différent. Mais Il va y avoir un corps, toujours le corps et l'esprit. On ne sera pas juste de l'esprit. On ne sera pas une brume. Okay? On ne sera pas juste une vapeur. Notre esprit va être là, on va être là, mais on va avoir un corps qui va être céleste, bâti pour vivre pendant l'éternité. OK? Donc, au verset 40, là, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps terrestres, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même les étoiles diffèrent en éclat l'une d'une autre étoile. Donc, on voit que les étoiles sont différentes. Ça veut dire que nous, dans notre corps céleste, on va même être différents les uns des autres. Il y en a qui vont briller plus que les autres. OK? Donc, les étoiles, comme les étoiles sont différentes, nos corps vont être différents. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc, le corps est semé corruptible lorsqu'on est. À partir du moment où on est, c'est sûr qu'on prend du mieux. À un moment donné, on commence à dépérir. Okay? La masse musculaire diminue, les maladies arrivent. Même la personne la plus jeune, la plus en forme, la plus belle, c'est temporaire. Ça va dépérir, ça s'en va. Et notre corps est corruptible, dans le sens qu'il va corrompre, comme la. Il se détruit, là, Surtout après qu'on est décédé, là, ça va encore plus vite. Donc, notre corps n'est pas bâti pour la vie éternelle. Okay? Peut-être qu'à l'origine, parce que Dieu avait défendu Adam et Ève de toucher l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc, à l'origine, s'il n'y avait pas eu le péché d'Adam et Ève, on aurait pu vivre éternellement dans ce corps. Mais Dieu a enlevé l'arbre de la vie parce qu'il ne voulait pas qu'on vive éternellement dans le corps qui est touché par la malédiction du péché. Donc, c'est mieux que ça finisse un jour et qu'on ait un corps nouveau, un corps transformé. Et on voit qu'on va avoir un corps incorruptible. Plus de maladies, plus de défauts physiques, plus de souffrances. Ça fait du bien, ça, hein? Donc, ce qu'on vit actuellement, c'est temporaire. Et on va être immortel. Notre corps ne vieillira plus. On a un corps qui va être conçu pour durer pendant l'éternité. Un corps garanti à vie éternelle. Donc, ce ne sera plus 5 ans, 100 000 kilomètres. Notre corps physique n'est pas garanti. Il peut flancher n'importe quand. On ne peut pas le retourner chez le manufacturier, aller voir le concessionnaire. Aucune garantie. Ça va durer. Mais notre nouveau corps céleste va être garanti pour l'éternité. Il va être vraiment bien conçu. Nous continuons au verset 43. Il est, c'est-à-dire notre corps physique, est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infime, il ressuscite plein de vie. Donc, notre corps actuellement serait, d'après Paul, méprisable. Donc, on n'a pas le corps. On voudrait bien ressembler à quelqu'un d'autre. Prendre un petit bout de lui, tu sais, les bras d'un, le cerveau de l'autre, ou la santé d'un autre. Tu sais, faire un, là, tu sais, avec un peu de tout. Mais notre corps, il nous manque toujours quelque chose. On n'est pas parfait, on a de la souffrance, on a des défauts physiques. Donc, il dit, notre corps, comparé à ce que va être notre corps céleste, notre corps physique, c'est méprisable. Okay? Même si David a dit que c'était une créature merveilleuse. Dieu fait une créature merveilleuse, notre corps. Mais il n'est pas parfait. Et il dit, par rapport au méprisable, il dit, il ressuscite glorieux. C'est dur à comprendre, mais on va avoir un corps glorieux. Les gens vont regarder notre corps, ils vont dire « Wow! » On va regarder les autres, on va dire « Wow! » C'est donc bien beau. Pensez-vous? Ça va être comme ça. C'est inimaginable, mais ça va être comme ça. On va tous avoir un corps glorieux. On va avoir la gloire. Puis il dit, semé infirme, il ressuscite plein de force. On se souvient de M. Goyette, Louis Goyette, qui est devenu infirme à cause d'un accident. Vraiment pris dans son corps. Il est décédé, le Seigneur est venu le chercher. Aujourd'hui, il est avec le Seigneur en esprit, mais il est vraiment réellement avec lui. Dans son nouveau corps, un corps plein de force. plus aucune distinction. On va tous avoir des corps pleins de force. Vraiment encourageant. Continuons au verset 44. Il a semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, corps physique animal, corps spirituel. Verset 45. C'est pourquoi il a été écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, actuellement, on a ce qui est animal ou physique, mais on va avoir ce qui est spirituel plus tard. Verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, on a l'image de quelqu'un qui est physique, qui vit sur la terre. Un jour, on va avoir une image, une ressemblance à ce qui va être céleste. On va être vraiment différent. Et nos corps vont être immortels. Actuellement, notre corps est conçu en fonction de la vie terrestre. Parfaitement adapté à cela. Notre nouveau corps céleste va être adapté pour profiter de son environnement céleste. Pouvoir profiter de tout ce qu'il va y avoir à profiter dans la présence de Dieu et dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, il va fitter, si vous me permettez l'expression, parfaitement à mon nouvel environnement céleste. J'ai trop parlé, je vais plus loin que mes notes. Donc, notre esprit réside actuellement dans un corps terrestre. Un jour, notre esprit va résider dans un corps céleste. On continue au verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, notre corps physique ne sera plus dans le ciel, ça va vraiment être différent. Voici, je vous dis un mystère. Ah, un mystère. Donc là, tourne l'attention. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, d'un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque le Seigneur va revenir, ceux qui sont là à ce moment-là vont être transformés et les morts vont ressusciter incorruptibles. Et la façon que l'apôtre Paul parle, c'est comme si Jésus serait revenu de son temps. Nous ne mourrons pas tous. Mais on sait que les épîtres-là étaient écrits pas juste pour les gens de Corinthe, mais ils étaient écrits pour nous autres aussi. Ça s'applique à nous. Et dans le temps de Paul, je comprends que les gens attendaient le Seigneur. Parce que tout était comme précipité, là. Vous voyez, Jésus est venu, mettons, il est mort. Il dit, je vais ressusciter après 3 jours. Ressusciter 3 jours après. Ensuite, quand il est parti, il dit, je vais vous envoyer l'Esprit. Saint-Esprit est arrivé 40 ou 50 jours après. C'était vraiment, c'est les promesses de Jésus, c'est vite, vite. Jésus a dit, je vais revenir. Quand, pas Jésus l'a dit, il l'a dit aussi, mais les anges, quand Jésus était enlevé, les anges ont dit, ce Jésus que vous avez vu aller au ciel, vous le verrez revenir de la même manière dans Actes 1er chapitre. Donc, c'est normal qu'il l'attendait, là. Il l'attendait, puis même ça crée un problème à Jérusalem, parce que les chrétiens vendaient tous leurs biens, tout, puis partageaient tout, parce que le Seigneur s'en vient, plus besoin de ça. Ils vidaient, ils font de pension, je ne sais pas s'il y en avait, là, mais... Il avait besoin, c'est l'immédiat, le Seigneur s'en vient, là. Donc, puis il y en a qui ne travaillaient même plus. Mais le Seigneur a tardé, puis ça a créé certains problèmes. Maintenant, il a fallu que d'autres chrétiens, d'autres églises viennent les aider. Donc, on va être transformés quand Jésus va revenir, et ceux qui sont morts vont être ressuscités. Et moi, je crois que, en tout cas, je commence à être vieux, là, mais j'ai toujours cru que Jésus reviendrait de mon vivant. Mais avec tout ce qu'on voit dans le monde, la façon que ça avance, l'avancement de la technologie, des communications, tout ça, le gouvernement mondial qui n'est pas tellement loin, on se demande si le Seigneur ne viendra pas de notre génération. Mais je suis été sauvé depuis 35 ans. Quand j'ai été sauvé, on disait « il s'en vient ». Aujourd'hui, imaginez-vous, s'il avait dit 35 ans plus tard, il n'est pas arrivé, les gens auraient dit « il va être proche, par exemple, il va être proche ». Mais Je crois qu'on ne parle pas beaucoup de la venue de Jésus, mais c'est vraiment réel. Et il faut rester alerte, parce que ça peut être n'importe quand. Si nous continuons au verset 53, c'est ça. « Car il faut que ce corps corruptible, » il parle beaucoup du corps corruptible, hein, « revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc, heureusement que notre corps va revêtir l'immortalité. Donc, à quoi ça va ressembler ce nouveau corps? On sait qu'il est incorruptible, mais Jésus a ressuscité aussi. Donc, on va regarder quel genre de corps il y avait. Parce qu'on voit dans la Bible que c'est mentionné que Jésus était les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Jésus ressuscité. Quel corps Jésus avait? Allons dans Luc, chapitre 24, verset 36. Donc, Luc 24, 36, je m'en viens. C'est quand Jésus, après sa résurrection, a apparu à ses disciples. Luc 24, verset 36. « Tandis qu'il parlait, c'est les disciples qui étaient réunis ensemble, il parlait de la sorte, lui-même, c'est-à-dire Jésus, se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. » Donc ici, c'est pas marqué que Jésus a frappé à la porte. C'est pas comme lorsque Pierre, à un moment donné, avait été libéré de prison, il frappe à la porte, « Ouvrez-moi, ouvrez-moi. » Ici, Jésus s'est comme présenté là. Donc, on voit qu'il y a son nouveau corps, il ne semble pas limité par la matière. Il pouvait se déplacer comme il voulait. Il a décidé qu'il serait là, puis il est arrivé là, au milieu d'eux. OK? Verset 37, « Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. » Je comprends. Tu vois quelqu'un qui t'apparaît là tout d'un coup, là, ils ont eu peur. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc, Jésus avait un nouveau corps. C'était pas simplement un esprit, c'était vraiment un corps. C'est un corps, puis vous pouvez même me toucher. Puis la preuve que c'est moi, vous voyez mes marques. Mais Jésus était vraiment différent parce qu'il ne le reconnaissait pas dans son nouveau corps. Donc, c'était pas le même. Le Jésus qu'il avait sur la croix, le Jésus qu'il avait connu, il avait été 3 ans avec lui, puis il ne le reconnaissait pas. Donc, dans notre nouveau corps, on va être vraiment différent. Même les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu. Il a marché un bout avec eux autres. C'est quand il a fait de la fraction du pain et du vin qu'ils l'ont reconnu. Mais, il y avait de la chair et des os. Ah! Donc, dans notre nouveau corps, on aurait de la chair et des os comme lui. Mais que ça va durer pour l'éternité, dans notre corps céleste. Verset 40. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Donc, pour leur prouver que ce n'était pas une vapeur, que ce n'était pas une hallucination qu'il y avait, c'était vraiment quelqu'un qui était là, dans un corps transformé, régénéré. Il a mangé. Il a mangé devant eux. Puis quand il est parti, la nourriture n'a pas réapparu. La nourriture était partie. La nourriture n'est plus là. C'est vrai. C'est que, donc, c'est pour les aider à croire que c'était vraiment lui qui était ressuscité et que ce n'était pas un esprit. Donc, dans son nouveau corps. On va lire la prochaine acétate, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Ou, ce que j'ai dit, Jésus est les prémices. Donc, ça va comme suit. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Donc, Jésus est décédé, ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices. C'est quoi les prémices? Les prémices dans l'Ancien Testament, c'était les premiers-nés d'un agneau, d'un troupeau. C'était aussi les premiers fruits de la terre. Donc, c'était ce qu'il y avait de meilleur, qui arrive en premier. Supposément, j'ai un jardin et j'ai cultivé des tomates. Là, j'ai hâte que ça pousse, hein? La première qui est prête, je l'enlève au plus vite, je ne la laisse pas moisir, puis je la mange. Et qu'elle est bonne. Elle est bonne. Ça cette tomate-là, ça, c'est les prémices. C'est ma première. Elle est bonne. Je prends la deuxième. Elle va être aussi bonne? Si je l'ai laissé le temps de mûrir, elle va goûter la même chose. Donc, Jésus, il est comme le premier fruit. Nous, on est, nous sommes les autres fruits ou les autres, je dirais pas légumes. Là. On va dire que la tomate est un fruit. Donc, Jésus est le premier. Les autres fruits qui viennent sont pareils, sont semblables à lui. Difficile à comprendre, mais nous croyons par la foi que Jésus est dans les prémices. Donc, nous allons ressusciter, nous allons être comme lui à la résurrection. Nous sommes les prémices. Une autre étape qui nous parle encore que nous serons semblables à Jésus dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Je vais regarder parce que ce n'est pas dans mes notes. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Donc, ce qu'on va être là, c'est pas clair. On prend la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas aller plus loin que ça. Il y en a qui disent, vu que ce n'est pas manifesté, on ne peut pas savoir qui on va être. Ben, allons chercher le maximum, mais le Seigneur nous en donne beaucoup dans sa parole sur comment on va être, comment ça va se passer. Mais il y a des choses qu'on sait. Deuxième partie. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, le fait de le voir tel qu'il est, le fait d'être avec lui, on va être semblable à lui. C'est quelque chose, hein? Le prochain verset dans Romains 8, 29, on parle encore de semblable ici. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, premier-né, le premier, c'est un peu comme les prémices tantôt. Prémices de ceux qui sont morts, le premier-né. Donc, c'est encore les prémices. Et afin qu'on soit semblable à l'image de son Fils. Semblable à Jésus. Donc, ça paraît pas seulement une fois, le fait qu'on soit, qu'on lui ressemble. Je vais vous lire un petit texte que j'ai vu dans le commentaire de John MacArthur sur les 1 Corinthiens. Il dit, « Comme le corps de notre Seigneur, notre corps qui est maintenant corruptible, méprisable, infirme et naturel, ressuscitera en un corps incorruptible, glorieux, plein de force et spirituel. » Il ajoute plus loin, « La résurrection à venir est l'espérance et la motivation de l'Église et de tous les croyants. Quoi qu'il arrive à notre corps actuel, qu'il soit ou non en santé, beau ou ordinaire, jeune ou vieux, gâté ou torturé, ce n'est pas notre corps permanent et nous ne devrions pas trop y être attachés. Notre espérance et notre assurance bénie résident dans le fait que ce corps, créé naturel, sera un jour créé spirituel. Bien que nous n'ayons qu'un aperçu de ce à quoi ce nouveau corps ressemblera, le fait de savoir que nous serons semblables à lui devrait nous suffire. Donc, c'est merveilleux de savoir qu'on va être semblable à Jésus, malgré le corps qu'on a aujourd'hui et qui quand même qui peut être souffrant ou vieux, etc. René Pache, dans un auteur qui a écrit un livre sur le retour du Seigneur, qui a écrit aussi un livre sur l'au-delà, il disait dans ce livre sur l'au-delà, « Il est permis de penser que non seulement leur esprit, en parlant de nous, sera parvenu à la perfection morale, mais que leur corps nouveau, lui aussi, sera d'une radieuse beauté. » Un grand théologien qui dit ça, après avoir lu, quelqu'un qui scrute vraiment en profondeur les Écritures, dit que notre corps va être d'une radieuse beauté. Avez-vous voir? On n'en verra plus les autres. Une radieuse beauté. Hey, on regardait les autres. Hey, t'es donc bien beau. Des fois, on dit que t'es donc bien beau un matin. C'est vrai, hein, des matins qu'on est plus beau que d'autres. Mais là, ça va être tout le temps. Tout le temps, parce qu'on ne s'en aura pas. Lorsque nous avons été sauvés, accepté le Seigneur comme notre sauveur, nous avons vécu la rédemption de notre âme. Dieu nous a rachetés. Rédemption, ça veut dire racheter, là. Nous appartenions au règne des ténèbres. Dieu nous a rachetés. Ça fait qu'on lui appartienne. Il nous a rachetés. Et il y a aussi le rachat de nos corps, la rédemption de nos corps. Regardons dans la prochaine étape, Romains 8:23, pardon. Oh, non, on revient. Celui-là, 8:23, c'est ça. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, même notre corps va vivre une rédemption. OK? Comme notre esprit, nous sommes nés de nouveau, naissance spirituelle, notre corps aussi va avoir une rédemption. Et on voit ici, j'ai souligné le mot « soupirons ». Et on soupire, on a hâte d'avoir ce nouveau corps-là. Et ce soupir-là, c'est le désir de nos cœurs qui veut être délivré de l'emprise, de la détresse et de la malédiction du péché. Aujourd'hui, le péché, nous sommes libérés du pouvoir du péché, mais nous ne sommes pas libérés de sa présence. Nous sommes encore tentés. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons avoir la victoire. Mais le péché continue à nous harceler, à nous tenter. Et heureusement, le Seigneur est là pour qu'on lui confesse nos péchés, qu'il nous les pardonne. Mais à l'intérieur de nous, on sent ce qu'on peut appeler un saint mécontentement. Parce que le désir profond de mon âme, c'est pour un bonheur que je n'ai pas, un bonheur parfait que je n'ai pas sur la terre. Parce qu'on a été créé pour vivre dans un bonheur parfait, saviez-vous? Et c'est pour ça qu'on a un vide en dedans et il n'y a rien sur la terre qui va pouvoir le combler. Même l'Ecclésiaste qui avait vécu à cause de sa sagesse, de sa richesse, de son pouvoir, avait eu tout ce qu'il voulait. Et il a dit à la fin, « Tout est vanité et poursuite du vent. » Donc, on soupire après le ciel. C'est un désir profond de notre âme qu'on ne réalise pas. Et souvent, on veut combler ça par des choses qu'on voit sur terre. « Ah, si j'avais ça, je serais heureux. Ah, si j'étais marié ou si j'avais telle affaire, je n'avais pas tel problème, pas tel bobo, je serais heureux. » On ne sera jamais complètement heureux. On n'aura jamais un bonheur parfait sur terre. Mais nous avons été créés pour ça. C'est pour ça qu'on aspire. Ce n'est pas péché de vouloir être heureux. Parce que c'est dans notre nature, Dieu nous a fait comme ça. On va l'avoir un jour. Ça s'en vient. Donc, j'ai dit qu'on aurait au ciel un nouveau corps, mais il va y avoir aussi des nouvelles relations. Nos relations vont être différentes. Regardons nos relations entre nous les uns avec les autres. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait conserver notre identité. On va être différent. On se souvient, sur la montagne, la transfiguration, il y avait Moïse et Élie qui étaient là. Donc, ils étaient différents. Ce n'était pas deux esprits. C'était vraiment Moïse et Élie. C'était des personnes vraiment bien identifiées. Dans la parabole de Lazare et du mauvais riche aussi, dans le séjour des morts, ils pouvaient se reconnaître. On savait que Lazare et le mauvais riche pouvaient... Quand le mauvais riche parlait de Lazare, il savait c'était qui. Donc, il y avait encore leur identité. Lorsqu'on va être au ciel, on va être transformé. Et pour la première fois de ma vie, je vais être entièrement bon. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas bon, 100%. Mais là, nous allons être, les enfants de Dieu, entièrement bons, parfaits, sans défaut. Inimaginable. Plus de combat avec le péché. Plus de tentation. Sur terre, nous sommes plusieurs personnes imparfaites ensemble. Et ça paraît. Au ciel, nous allons être plusieurs personnes parfaites ensemble. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et quand j'ai été sauvé, moi, ce qui me frappait quand j'allais dans notre église, c'est de voir que les gens étaient heureux, les gens étaient différents. Je pensais que le monde était parfait. Mais il était beaucoup mieux que ce que j'avais vécu dans le monde. Les gens, il y a toute une différence. Mais j'ai réalisé à un moment donné qu'on n'était pas parfait et qu'on faisait des erreurs, qu'on pouvait se blesser, qu'on pouvait être blessé et tout ça. Mais au ciel, dans le fond, on a comme un avant-goût du ciel dans l'Église. On a un avant-goût du ciel. Mais au ciel, on va vraiment être parfait, plusieurs personnes parfaites ensemble. Et il n'y aura pas seulement l'environnement qui va être parfait, il y aura toutes les personnes qui vont être parfaites. Imaginez-vous, votre épouse va être parfaite. Non. Ouais, on ne se mariera pas au ciel. Votre époux aussi. Amen. C'est vrai, il y en a qui vont être heureux, heureuses. On va parler un petit peu plus, pas cette fois-là, mais la prochaine fois. Est-ce qu'on va se marier au ciel? On a demandé à un enfant de 6 ans la manière dont elle imaginait le ciel. Et l'enfant a dit, le ciel, c'est l'endroit où tout le monde aime tout le monde. C'est bien dit, hein? Tout le monde aime tout le monde. C'est là le ciel. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, nous lisons, « L'amour n'aura pas de fin. » Au ciel, on n'aura plus besoin de foi, parce qu'on va être face à face avec Jésus. On n'aura plus besoin d'espérance, parce qu'on va avoir ce à quoi on espérait, on va être déjà avec lui. Mais l'amour ne périra jamais. L'amour va toujours être là. Donc, Dieu a mis dans notre cœur le désir d'aimer et d'être aimé. On a besoin d'aimer les autres, on a besoin de voir que les autres nous aiment, et c'est un besoin fondamental. Et c'est pour ça que beaucoup de relations sur Terre, beaucoup de relations terrestres nous ont déçus, parce qu'on n'est pas capable d'aimer vraiment à 100% comme on devrait aimer. Avec l'aide du Seigneur, on réussit à aimer, mais pas parfaitement. Et les autres aussi ne nous aiment pas parfaitement, même s'ils veulent bien. Puis on a des déceptions. Et au ciel, on va être capable d'aimer et d'être aimé facilement, sans difficulté. Donc, j'ai dit aujourd'hui, nous sommes sauvés du pouvoir du péché. Au ciel, nous serons sauvés de la présence du péché. Il n'y aura plus de péché. Un autre verset dans Éphésiens chapitre 5. C'est beau. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Surtout la fin, mais je vais lire au complet, là. Marie, aimez chacun vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, j'ai dit, quand même si on aime imparfaitement, c'est là, nous demande d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche. Et lorsqu'on parle de l'Église ici, c'est nous. Dans le fond, l'Église prend les qualités de ses habitants ou de ceux qui composent l'Église. Donc, lorsqu'on parle de l'Église, ça peut sembler impersonnel, mais l'Église, c'est tous nous autres. Donc, lorsqu'on dit sans tâche, l'Église est sans tâche, ce sont les gens qui composent l'Église. Donc, on est purifié pour paraître devant lui sans tâche, ni ride, plus rien d'anti-ride, là, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, c'est quelque chose, hein? Pas de ride, pas de tâche, sainte, pas de défaut, parce qu'on va comparaître devant lui, parce que Christ nous a sanctifiés, Christ nous a purifiés. Et il y a un mot que je n'ai pas souligné, c'est le mot glorieux, j'aurais dû le faire, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on allait être d'une beauté resplendissante, on allait resplendir la gloire de Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose. Sur Terre, on dit des fois, toute bonne chose a une fin. Mettons, on a eu du plaisir, toute bonne chose a une fin. Au ciel, on va dire, toute bonne chose ne fait que commencer. Hein, quand on dit ça, on sent nostalgie, déception. Mais au ciel, ça fait juste commencer. C'est comme quelqu'un me racontait une histoire, un moment donné, qui voulait se faire enterrer avec une fourchette à dessert dans ses mains. Pas enterré, mais lorsqu'il était exposé dans son cercueil. Parce que quand on a une fourchette à dessert, on dit toujours, le meilleur est à venir. Et avec la fourchette, ça symbolisait que le meilleur est à venir. Je sais pas si c'est fait pour vrai ou si c'était une illustration. Donc, on parlera plus du bon vieux temps. Que c'était le bon vieux temps. C'était facile dans ce temps-là. Non, le meilleur est à venir. Nos plus beaux jours sont devant nous. Ceux qui commencent à prendre de l'âge, on dit, j'étais-tu bien avant, j'avais pas de mal dans le dos, un peu ici, les épaules. Puis c'était bien mieux avant. Mais vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. C'est encourageant, ça. Moi, ça m'encourage. Parce que moi aussi, je sens des bouts qui sont pas. Je commence à réduire à des places, mais il y en a que c'est pire. Donc, puis au ciel, je vais être pleinement satisfait de la personne que je suis. Pleinement satisfait de mon corps. Aujourd'hui, on a plein de satisfactions. On voudrait être différent, mais au ciel, je vais être pleinement satisfait. Et au ciel, on va avoir le plaisir sans péché. Quelqu'un a dit un jour, j'ai entendu, il me disait, non, il ne me l'a pas dit à moi, il disait à quelqu'un d'autre, j'ai entendu, il disait, j'ai découvert que sur la terre, le plaisir, qu'est-ce qu'on appelle le péché, c'est le plaisir. Donc, je ne me retiens pas. Tout ce qui lui faisait plaisir, c'était péché. Est-ce qu'on peut s'imaginer le plaisir sans péché? Ben oui. Et je vais vous lire un petit texte ici encore de John MacArthur qui dit « Cette méfiance à l'égard du ciel. » Il y a des gens qui ont peur d'aller au ciel parce qu'ils pensent « On n'aura plus de fun, il n'y aura plus de péché. » Cette méfiance à l'égard du ciel qui ne m'apporterait que l'ennui éternel est profondément enraciné dans les mentalités et reflète l'état de notre pensée corrompue par le péché. Donc, vu qu'on est corrompu par le péché, on pense que le plaisir est dans le péché et qu'on ne peut pas avoir de plaisir sans péché. C'est à cause de notre nature pécheresse. En tant que pécheurs, nous sommes naturellement enclins à penser qu'un petit péché est certainement plus agréable qu'une justice parfaite. C'est quoi la justice parfaite? C'est quoi? Un petit péché? C'est pas un petit velours, un petit péché mignon. Il est souvent difficile d'imaginer une vie totalement dépourvue de péché et pourtant remplie de plaisirs sans fin. Nous, on a de la misère à s'imaginer ça. Mais Dieu est un Dieu joyeux. Tu sais, quand Jésus dit, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dieu, dans sa présence, il y a de la joie et du plaisir. Ça ne finit pas. C'est continuel. Donc, il y a un plaisir sans fin. Et ça va être merveilleux. La prochaine fois, on va regarder notre relation avec Jésus, parce qu'on a bien le droit de nos relations les uns avec les autres. On va regarder, est-ce qu'on va se marier au ciel? On va regarder les récompenses. On va regarder aussi, est-ce qu'on va travailler au ciel? Pas encore travaillé. Mais ça ne sera pas le sueur de notre front. Est-ce qu'on va faire des choses au ciel? Plus tard, on va regarder la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Il y a encore des choses là qui nous attendent. OK? Si je suis chrétien, comme je disais tout à l'heure, ces choses-là s'appliquent à moi. Et est-ce que ma vie sur la terre, ma vision sur la terre est en fonction de ce qui m'est réservé au ciel? Et souvent, comme je disais, on a une vie trop terrestre. Donc, je vous invite à lire davantage la parole de Dieu, lire des livres qui nous parlent vraiment du Seigneur, qui vont approfondir notre foi, afin qu'on ait toujours le goût d'en savoir plus sur lui, toujours assoiffé. Et lorsqu'il va revenir, c'est un Jean qui dit, afin que nous ne soyons pas honteux devant lui. Lorsque Jésus va revenir, soit nous chercher parce qu'on va mourir, ou il arrive pour l'enlèvement. Oups, Seigneur, tu n'aurais pas pu revenir une journée plus tard, j'aurais réglé des affaires avec quelques frères, ou je ne sais pas, là, une question d'argent et des affaires, que peut-être ce serait mieux de régler ça. Mais soyons toujours prêts comme s'il revenait tout de suite. Tout de suite. Donc, si je suis chrétien, si je meurs, je vais avec le Seigneur. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai dit, Seigneur, on peut revenir plus vite qu'on le pense et on peut mourir plus vite qu'on le pense. Et après que j'ai fini de parler, il y a Suzy, la femme de Katie, qui m'a dit, ben, ce que tu viens de dire, on a failli perdre Katie cette semaine. Merci Seigneur de nous l'avoir gardé. Merci pour nous. Nous, on est contents de l'avoir. Mais lui, il fallait qu'attendre pour voir le Seigneur. Mais Katie était prêt. Il était prêt à partir. Mais c'est pour dire que ça peut nous arriver n'importe quand. On est plus près du Seigneur qu'on le pense. OK? Es-tu prêt? Jésus nous invite tous. Je parlais tout à l'heure qu'il y en a qui sont vraiment nés de nouveau sauvés, d'autres qui ne le sont pas encore. Mais l'invitation tient tout le temps, tant qu'il n'est pas revenu. L'autre côté, il est trop tard pour m'arranger avec lui. Combien j'entends ça souvent? Quand je vais arriver à l'autre bord, je vais m'arranger avec lui. Si vous avez lu le livre de Job, Job qui était éprouvé, Job qui était un homme juste, il argumentait quand même avec Dieu jusqu'à un certain point. Mais quand il a vu la grandeur de Dieu, il s'est repenti, il a dit non. Je vais parler sans les comprendre des choses qui me dépassent, que je ne comprends pas. Mais souvent, on parle sans les comprendre des choses qui nous dépassent. On dit des stupidités. On pense que c'est correct parce que notre intelligence peut être aveuglée. Donc, Jésus invite tout le monde. Jésus t'invite. Et il y a une histoire d'une chanteuse d'opéra très célèbre qui a été invitée pour chanter dans un mariage à Washington, un mariage d'une célébrité. Elle a reçu l'invitation, elle s'est présentée, et lorsqu'elle est arrivée à l'entrée, elle donne son nom, telle madame, puis parce que quelqu'un contrôlait l'entrée, question de sécurité et tout ça, parce que pas tout le monde pouvait y aller, à cause que c'était une personne importante, et la personne à la porte dit, « Madame, votre nom n'est pas sur la liste. Donc, je ne peux pas vous laisser entrer, malheureusement. » Hey, j'ai l'invitation, j'ai été invité, regarde, j'ai l'invitation ici. Oui, mais madame, moi, là, il faut que votre nom soit dans le livre ici. Et le nom n'était pas dans le livre, il n'était pas inscrit. Donc, la madame avait eu l'invitation, mais elle n'avait pas répondu. Donc, malgré qu'elle pensait qu'elle irait chanter pour la célébrité, elle n'a pas pu chanter, elle a tourné chez eux avec son petit bonheur ou son petit malheur. Mais elle n'a pas pu aller chanter parce qu'elle n'était pas inscrite. Et c'est la même chose pour nous. La parole de Dieu parle du livre de vie. Ceux qui sont sauvés sont inscrits dans le livre de vie. Quand je vais arriver devant le Seigneur ou quand je vais mourir, je vais dire, oui, mais j'étais invité. Oui, mais t'as-tu accepté l'invitation? T'as-tu dit oui sur terre? C'est pas le temps, là, il est trop tard. Donc, le Seigneur nous invite, son invitation tient. Et je vous invite à vraiment l'accepter pendant qu'il est encore temps. Et mon but, c'est pas de vous faire peur avec l'enfer, mais c'est simplement de vous réveiller. Parce que la vérité existe. Nous sommes dans un monde postmoderniste où tout est relatif. Chacun a sa vérité. Hein? Toi, tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité. Quelle fausseté! Parce que la vérité, supposément, il y a un meurtre, OK? Puis il y a deux versions. Bien, la vérité, elle existe. Peu importe qu'il y ait deux, trois, quatre, cinq versions, il y en a une version qui est vraie. Donc, c'est arrivé d'une certaine façon. Ça, c'est vrai. Il y en a une vérité. Et au niveau de ce qui se passe après la mort, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité, elle existe. Donc, si elle existe, on doit en parler. Et Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur l'amour. C'est bon. Il faut se respecter. Oui, c'est bon. Mais la parole de Dieu parle d'une balance entre l'amour et la vérité. Il parle des deux. Si je vous aime, Jésus nous aimait, il nous a parlé, il nous a donné la vérité. Il n'a rien caché. Il n'a rien caché. Et je reviens d'un voyage, je suis allé 3 jours en Gaspésie cette semaine. J'étais en vacances et j'y vais chaque année pour voir ma mère qui est malade. Et cette année, elle était très... Elle avait perdu beaucoup de ses moyens. Et quand je l'ai quitté, je me suis dit, je pense que c'est la dernière fois que je la vois vivante. Là. Et je suis parti, j'étais vraiment triste. Et je suis parti de là avec la notion de la mort là, qui était... Tu sais, quand on voit proche de la mort des gens qui vivent le deuil, là, ça nous ramène à ça. Hein? Parce que dans notre quotidien, travail, métro, boulot, dodo, on finit par oublier ces choses-là, la réalité de la mort. Et même en Gaspésie, il y a 2 semaines, j'ai une cousine qui est décédée du cancer. J'ai une tante qui est décédée aussi. Et cette tante-là, sa petite-fille est décédée pendant qu'on était en Gaspésie. Fait que Marjolaine et moi, on est allés. On ne pouvait pas assister aux funérailles parce qu'il fallait s'en revenir ici. Et mercredi soir, on est allé voir mon oncle qui venait de perdre sa femme la semaine passée et sa petite-fille le matin même. Et c'était pas gay. Tu sais, quand on est rentré là, j'aurais voulu aller ailleurs, mais quand même. Puis on des paroles d'encouragement, on n'en avait pas, mais au moins, le fait d'être présent, d'être là pour eux, c'était au moins ça. C'est seulement ça qu'on pouvait leur donner. Et quand je suis revenu en auto, première heure, je crois, moi, je ne parlais pas beaucoup, là. Tout ça, ça me ramenait, je ne veux pas faire peur avec la mort, là, mais c'est vraiment présent. Il y a des moments dans ma vie où je le réalise plus. Et si le Seigneur ne nous enlève pas bientôt, ben on va tous passer par là. Et il faut être prêt. Et c'est glorieux lorsque nous sommes sauvés. Et pour ma mère, je n'ai pas de conviction qu'elle est sauvée, même si c'est ma mère, je l'aime. Puis ceux qui sont décédés aussi, ma tante, ma cousine et la petite fille, ils n'étaient pas chrétiens non plus, à ce que je sache. Donc, c'est doublement 100 fois plus triste. Lorsque quelqu'un est sauvé, on a une peine, parce que lorsqu'on a coupé un bras, ça fait mal, lorsqu'elle meurt. Là. Donc, on est séparés, on souffre, mais on est jusqu'à un certain point heureux, on a des sentiments un petit peu ambivalents, on est heureux pour la personne qui est avec Jésus. Donc, c'était ça mon message ce matin. Vous parlez du ciel, je ne veux pas vous laisser sur une note trop triste, mais vous rendre conscient que cette vie ici, c'est vraiment éphémère et vivant pour l'éternité. parce que notre passage, c'est vraiment court. Et pendant que je vais prier, je vais inviter l'équipe à venir pour terminer avec un chant. Notre Dieu, on est vraiment reconnaissant de nous avoir laissé la vérité, d'être venu. Toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et merci, Seigneur, de ne pas nous avoir laissé dans la brume, dans l'inconnu, dans les choses floues, relatives. Mais Seigneur, nous aimons ce qui est clair, ce qui est précis. Seigneur, parce que notre vie éternelle, on ne peut pas jouer avec ça. Et merci, Seigneur, de nous avoir donné dans ta parole, dans la Bible, suffisamment d'éléments, de choses pour qu'on comprenne ce salut merveilleux. Seigneur, on ne comprend pas tout. On ne sait pas exactement comment ça va être l'autre côté, mais on sait qu'on va être semblable à toi, ça va être merveilleux. Et on sait aussi que qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et merci, Seigneur, pour toutes les personnes ici qui t'ont accepté. Et je te prie pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, de les rapprocher de toi, de leur montrer leur péché, de leur montrer le salut, de leur montrer, Seigneur, les souffrances que tu as endurées pour eux et le fait que tu sois ressuscité pour les sauver. Et c'est dans ce beau nom, le nom de Jésus, que nous te prions. Amen. Merci beaucoup.